Il est 18h, le journal c'est avec Tara Schlegel. Bonsoir Tara.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La guerre en Syrie a fait plus de 300 000 morts, mais la trêve tient toujours 24 heures après. La communauté internationale espère acheminer rapidement des vivres et de l'aide médicale. Nous verrons avec Omar Waman combien les rebelles sont pris au piège de cette trêve. Leurs seuls alliés, les seuls alliés qui leur restent et qui sont des extrémistes, restent des cibles pendant cette trêve pour le régime de Bachar al-Assad et pour la coalition. En Allemagne, la police arrête 3 suspects dans un camp de réfugiés. Ils auraient un lien avec les attentats de Paris, seraient proches de Daesh. Explication de Cyril Sauvageau. En France, le premier centre de déradicalisation ouvre en Indre-et-Loire avec des volontaires qui seront sur place d'ici quelques jours. Antoine Maret l'a visité pour nous. Le procès Cahuzac, l'ancien ministre du budget, affirme cet après-midi qu'il n'a pas menti au président Hollande à propos de ses comptes, compte rendu d'audience avec Florence Sturm. Nous reviendrons sur les bonnes statistiques de la zone euro. Le chômage est au plus bas depuis 2008, nous dira Jean-Marc Chardon. Et puis la filière agricole souffre en France, avec en particulier les céréaliers qui connaissent leur pire récolte depuis l'après-guerre. Ce sera un dossier signé Cécile de Kervas-Doué. Un calme précaire règne donc en Syrie. Depuis hier soir, la trêve tient malgré quelques escarmouches, 2 obus lancés près d'un village par le régime de Bachar al-Assad. Les rebelles qui sont eux accusés d'avoir violé 23 fois, c'est très précis, le cessez-le-feu, dit Damas. Il n'y a pas eu de mort toutefois depuis 24 heures et la communauté internationale espère acheminer des vivres pendant ce répit. La situation est catastrophique pour au moins 1,5 million de personnes, a chiffré l'ONU tout récemment. 18 zones assiégées où quelques 600 000 civils sont pris au piège. L'objectif du cessez-le-feu est donc d'envoyer rapidement des convois humanitaires. 20 camions ont franchi la frontière turque. Cela dit, cette cessation des hostilités reste très fragile. Le régime a le droit de continuer à viser les groupes extrémistes, comme Daesh, bien sûr, ou comme l'ex-front al-Nosra, qui serait lui-même très proche des rebelles modérés. Omar Waman nous appelle de Beyrouth.
Oui, le régime de Damas, au même titre que les avions russes et américains. Dès hier soir, plusieurs groupes rebelles ont fait part de leur réserve et surtout de leur refus de voir leur allié de Fatah el-Sham, ex-front al-Nosra, visé par des frappes à l'instar du groupe État islamique. Mais si on se réfère à l'accord russo-américain conclu à Genève vendredi dernier, il stipule clairement que 2 entités djihadistes ne sont pas concernées par ce cessez-le-feu, Daesh et Fatah el-Sham. Fatah el-Sham étant en fait la branche syrienne d'Al-Qaïda. Les rebelles modérés sont mis dans une situation extrêmement délicate. Ils leur ont demandé de se désolidariser de leurs alliés dans la guerre qu'ils mènent depuis 5 ans contre le régime de Bachar el-Assad. 5 ans de bombardements, 5 ans de privations qui ont fait des djihadistes de Fatah el-Sham l'une des pièces maîtresses de cette opposition armée. Fatah el-Sham est devenu incontournable, notamment à Idlib et surtout à Alep. Prendre leur distance avec ces djihadistes de Fatah el-Sham, c'est pour les rebelles modérés prendre le risque d'affaiblir leur rang, de dégarnir certains fronts avec au bout une défaite certaine.
Omar Waman à Beyrouth. La guerre en Syrie, terreau du terrorisme international. En Allemagne, la police vient ainsi d'arrêter 3 hommes dans un foyer d'accueil pour réfugiés, soupçonnés d'appartenir à Daesh. Ils sont surveillés depuis l'hiver dernier quand ils se sont glissés parmi les migrants syriens. Cyril Sauvageau est à Berlin.
Les 3 suspects interpellés ce matin dans des centres d'accueil de la région de Hambourg, 3 hommes de 17, 18 et 26 ans, étaient sous surveillance depuis plusieurs mois déjà. Arrivés en Allemagne en novembre dernier, dans le flot des réfugiés, munis de passeports syriens, ils ont très vite attiré l'attention des enquêteurs. Le plus jeune d'entre eux, notamment, aurait été formé en Syrie au maniement des armes et des explosifs. Une fois en Allemagne, il aurait reçu de Daesh de l'argent liquide et un téléphone portable spécialement configuré. D'après le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, les 3 suspects pourraient être en lien avec les terroristes du 13 novembre à Paris. Ils ont eu recours en tout cas à la même organisation de passeurs pour gagner l'Europe et leurs papiers d'identité proviennent du même atelier. Rien ne permet pour l'instant d'affirmer que cette cellule dormante s'apprêtait à passer à l'action, mais selon le parquet fédéral, les 3 suspects sont venus en Allemagne sur ordre de Daesh, soit pour exécuter une mission, soit pour attendre des instructions. Des documents, ordinateurs et téléphones ont été saisis lors de ce coup de filet. Les 3 suspects vont être poursuivis pour appartenance à une organisation terroriste étrangère.
Cyril Sauvageau à Berlin. Que faire de ces jeunes ou moins jeunes tentés par l'islamisme radical? Tous les pays européens se pose la question. En France, le gouvernement tente de prévenir ces dérives et ouvre, en Indre-et-Loire, le premier centre de déradicalisation. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir Tara.
Vous rentrez de Beaumont en Véron, la petite commune où se situe ce nouveau centre. Les 25 jeunes sont attendus d'ici quelques jours et ils seront, Antoine, tous volontaires.
Volontaires et donc libres de rester ou de quitter ce centre qui n'est pas fermé. Il s'agit d'une belle et vaste demeure avec un parc. Elle était occupée auparavant par un centre éducatif et de formation professionnelle. Le futur centre de déradicalisation ne privera pas ces futurs pensionnaires de leur liberté. C'est ce que nous explique son directeur Olivier Chasson.
C'est très important qu'ils soient volontaires, qu'ils s'inscrivent eux-mêmes dans le parcours. Qu'on n'aille pas les chercher, ça va être compliqué si on les force à venir. Ils ne s'inscriront pas dans le parcours. C'est un parcours qui est important. On va construire avec eux un projet citoyen avec les valeurs républicaines. Donc il faut qu'ils soient volontaires et parti pris de ce projet-là.
Ce parcours pourra durer jusqu'à 10 mois en régime d'internat. Il s'adresse aux jeunes majeurs, moins de 30 ans, hommes et femmes, qui connaissent des difficultés dans la vie et qui sont en début de radicalisation, mais qui n'ont pas commis de délit ou de crime. Pour le préfet d'Indre-et-Loire, Louis Lefranc, ce centre est d'abord une main tendue de la République.
C'est une façon pour nous, qui représentons l'État, de leur dire « vous avez encore une chance, on peut vous aider à vous en sortir, c'est possible voilà. ». Ce sont des gens qui sont dans l'ensemble, ils sont mal dans leur peau. Donc on leur tend cette perche, on ne les blâme pas, on ne les accable pas, on les accompagne. Et en les sortant de leur environnement, en les sortant de leur milieu et en les amenant ici dans ce centre, qui est un bel endroit, je pense qu'ils vont pouvoir reconstruire des bases de vie qui vont leur donner ces perspectives qu'ils ont perdues.
Les pensionnaires vont bénéficier d'une aide à la réinsertion professionnelle. Ils vont être également sensibilisés aux valeurs de la citoyenneté. Cette expérience vise à être étendue à l'ensemble de la France. Muriel Domenac, secrétaire nationale du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.
C'est une démarche nationale dans le cadre du plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme. L'objectif d'ici 2 ans est d'avoir 13 centres, un par région. On commence ici parce que c'est la transformation d'une activité, d'un lieu et le bénéfice de l'expérience de cette équipe, mais c'est une démarche nationale.
Cette expérience suscite des inquiétudes, celle des riverains. Ils étaient une dizaine ce matin à manifester devant le centre. Sur leurs panneaux, on pouvait lire notamment « Déradicalisation, poudre aux yeux ».
Merci Antoine Marette. La crise des réfugiés en ces temps de menaces terroristes divise une nouvelle fois l'Union européenne. On sait combien les pays d'Europe centrale en particulier se sont montrés frileux pour imaginer un mécanisme de répartition des migrants syriens qui fuient la guerre. Eh bien ce mardi, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères met les points sur les i. S'érigeant en garant des valeurs européennes, Jean Hasselborn demande que la Hongrie soit temporairement au moins exclue de l'Union européenne en raison du sort réservé par le gouvernement Orban aux réfugiés, mais pas seulement. Pierre Benazé est à Bruxelles.
Le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois estime que la Hongrie traite les migrants presque aussi mal que des animaux. Pour Jean Hasselborn, la barrière à la frontière hungaro-serbe est de plus en plus haute, longue et dangereuse, et le gouvernement magyar n'est plus très loin d'ordonner de tirer sur les réfugiés. Il y ajoute la liberté de la presse et l'indépendance de la justice hongroise, qui sont déjà au centre de bisbilles entre le gouvernement de Viktor Orban et plusieurs pays européens. L'homologue allemand de Jean Hasselborn, Frank-Walter Steinmeier, affirme que ce n'est pas une position commune de l'UE et ne veut montrer la porte à personne, mais comprend que des pays, je cite, « s'impatientent face à la Hongrie ». De son côté, la Commission européenne se refuse à toute réaction, mais on peut rappeler que les tensions ne manquent pas avec les Magyars. Il y avait déjà eu des heurts au sujet de la construction du mur, ou bien au moment du refus par la Hongrie et d'autres pays d'Europe centrale du projet de répartition des réfugiés par quota. Une question sur laquelle le gouvernement hongrois organise d'ailleurs un référendum pour le mois d'octobre. Le président de la Commission avait aussi l'an dernier promis de livrer bataille contre Viktor Orban s'il maintenait son idée de rétablir la peine de mort. De son côté, le ministre hongrois juge son homologue luxembourgeois peu sérieux, condescendant, suffisant et frustré. Bref, l'ambiance risque fort d'être délétère au sommet européen.
Voilà, Pierre Benazé à Bruxelles. En France, que faire des migrants de Calais? Le gouvernement a promis de fermer la jungle d'ici la mi-octobre. D'après Le Figaro, le ministère de l'Intérieur va demander aux préfectures de trouver des sites pour accueillir ces clandestins qui ne peuvent plus passer en Angleterre. Il s'agit d'étendre le dispositif des centres d'accueil et d'orientation à toutes les régions pour créer 8200 nouvelles places. Les migrants resteraient quelques mois, le temps de faire examiner leur situation, qu'ils demandent l'asile en France ou qu'ils soient ensuite reconduits. À droite, Christian Estrosi, pour la région PACA, affirme sa totale opposition à ces micro-jungles de Calais qui seront imposées aux élus locaux. Ces nouvelles déclarations choquent de Jérôme Cahuzac. Alors que son procès touche à sa fin, l'ancien ministre du Budget évoque la figure du président de la République, François Hollande, homme auquel il n'a jamais menti. Florence Sturm est au palais de justice.
De l'affaire Cahuzac, on se rappelle le déni, les yeux dans les yeux à la télévision. Le mensonge à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2012. On connaissait l'entretien avec le président et Jean-Marc Ayrault. Cette question à la sortie du Conseil des ministres, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? À la barre, la voix grave, Jérôme Cahuzac raconte « J'ai répondu, c'est rien, c'est des conneries ». Et d'une certaine manière, poursuit-il, je ne mentais pas. On sait désormais que Jérôme Cahuzac a eu un autre entretien en tête-à-tête avec François Hollande, dont je ne dirai rien, déclare-t-il, avec un art consommé de l'ellipse que souligne le président. Doit-on comprendre qu'il y a eu un lien entre cet entretien et vos déclarations à l'Assemblée, interroge le magistrat. Jérôme Cahuzac marque un temps d'arrêt. Ce lien de causalité n'est pas le seul, mais il en est un. Nouveau silence, je n'ai pas menti, les yeux dans les yeux au président, ce n'est pas vrai, répète le prévenu. Si j'ai menti, c'est par omission, parce qu'il ne m'a jamais posé la question « As-tu oui ou non un compte ?» au cours de cet entretien. Le juge insiste, Jérôme Cahuzac s'obstine. Les termes de cette conversation ne m'appartiennent pas, mais j'en sors avec la conviction qu'il faut que je continue à faire ce que j'ai à faire en politique. De ce tête-à-tête secret, on ne saura donc rien de plus, si ce n'est encore cette étrange déclaration qui laisse la voie libre à toutes les interprétations. Le président de la République assène Jérôme Cahuzac, je lui reconnais tous les droits, y compris celui d'avoir agi de telle manière que ma vie a été brisée, broyée. Il n'a pas commis de faute politique. Humainement, conclut-il, c'est autre chose.
Florence Sturm au procès de Jérôme Cahuzac. François Hollande, bien loin du palais de justice de Paris, se trouve à Bucarest en ce moment. Première visite d'État depuis Jacques Chirac en 1997. Le chef de l'État, accompagné d'une vingtaine de chefs d'entreprise, a été rattrapé à l'étranger. Donc par le dossier Alstom, le patron du groupe, dans un courrier, a affirmé ce matin aux salariés que la pénurie de commandes rend impossible un avenir pérenne sur le site de Belfort. Pourtant, le gouvernement lui demande instamment de réfléchir à d'autres solutions. Tout sera fait pour que Belfort soit pérennisé de nombreuses années, a encore répété François Hollande tout à l'heure à Bucarest. Le ministre Christophe Sirugue, qui recevait tout à l'heure les syndicats à Paris, se donne lui 10 jours pour venir en aide aux ouvriers. Et puis en fin d'après-midi, le PDG d'Alstom, toujours lui, vient de reconnaître qu'il y avait des marges de manœuvre à propos de l'usine de Belfort. C'est du moins ce qu'il a affirmé au maire de la ville, qui appelle lui à une journée ville morte. Ce sera le 24 septembre prochain. Puisqu'on parle fermeture de sites et emploi, il n'en sera d'ailleurs question vendredi prochain au sommet de Bratislava où se retrouve l'Union européenne pour tenter de réfléchir à l'après-Brexit. Voici quelques chiffres intéressants qui concernent le chômage dans la zone euro. Bonsoir Jean-Marc Chardon.
Bonsoir.
Ce sont des chiffres encourageants puisque l'emploi est au plus haut, dit-on, depuis 2008 dans l'ensemble des pays qui ont adopté la monnaie unique.
Oui, le chômage qui recule nettement dans la zone euro, le phénomène est incontestable et c'est d'autant plus remarquable que sur ce trimestre, le second, eh bien la croissance, elle, a fléchi. Mais le fait est là, l'emploi remonte de manière continue en zone euro. Il remonte depuis une dizaine de trimestres d'ailleurs, au point qu'avec plus de 153 millions de personnes en emploi, on enregistre le chiffre le plus élevé depuis la fin 2008. C'était le pic de la crise financière mondiale. Il y a donc amélioration sur le marché du travail, pour autant elle n'est pas à mettre spécialement sur la monnaie unique, sur l'euro. Les pays hors zone euro enregistrent des résultats meilleurs encore, singulièrement depuis 3 ans. Dans ce palmarès, un État se démarque à ses dépens, c'est la France. Elle se retrouve en queue de peloton. C'est qu'elle ne génère guère d'emplois. Sur un an, c'est elle qui a les créations les plus faibles dans la zone euro, Finlande exceptée. La France est donc dans le bas de la courbe de l'emploi et elle y reste.
Merci Jean-Marc Chardon. Au-delà des statistiques, il y a des réalités. Effectivement, en France, le secteur agricole en particulier est en crise sévère. Les producteurs de viande et de lait se sont fait entendre cet été. C'est au tour des céréaliers à présent, avec des récoltes en baisse de 30%. Ils demandent donc au gouvernement, qui leur a promis un plan d'aide, de le mettre en œuvre. Quant aux meuniers, ils préviennent que produire du blé et de la farine va coûter plus cher cette année. Bonsoir Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir.
Est-ce que cette crise va avoir une répercussion sur le prix du pain ?
Mais peut-être avez-vous remarqué depuis la rentrée dans certaines boulangeries ce petit écriteau. Du fait de l'augmentation des matières premières, nous sommes dans l'obligation d'augmenter le prix du pain. Étonnant, lorsque l'on sait que depuis 3 ans, la tendance mondiale est à la surproduction de blé et donc que les cours se sont effondrés. Alors normalement, si le blé est moins cher, la farine devrait l'être aussi et donc le prix du pain devrait baisser. Mais ce n'est pas si simple, répondent les meuniers, parce qu'il y a eu les intempéries de 2016. Lionel Delouins est meunier à Gournay-en-Bray, en Normandie. Il est aussi le président de l'Association nationale de la meunerie française.
La meunerie découvre une situation sans précédent. Ça se matérialise à l'œil nu aujourd'hui par beaucoup de grains malades. Ce sont de petits grains. Aujourd'hui, le fait d'avoir des très petits grains peu chargés en amandes farineuses va provoquer une baisse de production de farine qu'on estime aujourd'hui à peu près de l'ordre de 3 à 5% en moins. À un moment donné, on va avoir effectivement une baisse de productivité. Donc une baisse de productivité engendre forcément des surcoûts. C'est pour ça qu'on tire le signal d'alarme.
Les meuniers français disent aussi souffrir de la concurrence de l'Allemagne où les moulins sont plus gros, plus productifs, avec en plus cette année une très belle récolte. Les meuniers demandent donc que l'État leur vienne en aide en supprimant par exemple la taxe farine qu'ils versent pour la mutuelle des agriculteurs, la MSA. Mais en attendant, les meuniers vont-ils reporter ce coût sur les boulangers et faire ainsi augmenter les prix du pain? C'est la question que je suis allée poser hier à un boulanger du 16e arrondissement de Paris, Dominique Antrac, qui est aussi le président de la Confédération des boulangers d'Île-de-France.
D'une manière générale, il faut savoir au niveau des prix, c'est qu'à la rentrée au mois de septembre, c'est là où en fait on en profite pour mettre un petit coup de pouce parce que c'est vrai qu'il y a des augmentations tout au long de l'année d'un ou deux % d'énergie, de matières premières, de salaire, bref, pour la pérennité de son entreprise, c'est très important de suivre le coût de la vie. C'est-à-dire que cette augmentation pure de la baguette, ce qu'il faut savoir, c'est pas forcément à cause du blé. Il y a tout un tas de paramètres d'emballage, de masse salariale, de matières premières, de loyer, etc. Enfin, ça tient compte de tout ça.
Et il faut savoir aussi que dans le prix de la baguette, les matières premières représentent finalement moins de 20%. Il n'empêche que la baguette, depuis près de 100 ans, ne cesse d'augmenter, malgré la baisse des cours du prix du blé. Ça n'a rien d'étonnant, m'a expliqué Thierry Pouche. Il est économiste à l'Assemblée des chambres d'agriculture.
Les agriculteurs connaissent ça très bien. Lorsque le prix du pétrole baisse, il n'y a pas forcément de répercussion sur le prix à la pompe pour leur tracteur. Eh bien, alors, lorsque le prix de la tonne de blé baisse, il n'y a pas forcément de répercussion sur le consommateur. On l'a bien vu sur le lait. Il y a des intermédiaires qui en profitent, il y a des grands distributeurs qui doivent en profiter aussi. Donc voilà, il faudrait peut-être trouver un moyen, des compromis, des logiques de partenariat entre tous ces acteurs-là, des filières pour essayer de se mettre d'accord. On baisse de temps lorsque ça baisse et on augmente de temps lorsque ça augmente, etc.
Parce que dans une économie de marché où l'État ne peut pas fixer le prix, on ne peut pas donc fixer le prix du pain comme ça. Mais il existe pourtant en France des coopératives qui le font. La coopérative CAVAC, par exemple, dans l'ouest de la France, a mis en place il y a 5 ans une démarche qu'elle appelle agriéthique et qu'explique Christophe Vinet, son directeur.
C'est une démarche pluriannuelle dans laquelle on engage l'agriculteur, le meunier, le boulanger ou l'industriel dans des prix fixes sur 3 ans. C'est une économie locale et c'est du commerce équitable dans la mesure où le prix est rémunérateur pour l'agriculteur. Écoutez, on achète nos baies au minimum à 180 € la tonne. Ça renvoie à une rentabilité modeste, mais à une rentabilité.
Et c'est donc une aubaine pour les agriculteurs cette année quand on sait que la tonne de blé se vend au mieux à 160 € la tonne. Pourtant, cette coopérative CAVAC est encore une niche et la plupart des céréaliers français préfèrent pour l'instant en appeler à l'État pour que le plan d'aide financière prévu en août dernier par le gouvernement arrive enfin dans leur trésorerie.
Dossier signé Cécile de Carvaz-Doué. Et puis, on va terminer cette édition avec ce nouveau coup de théâtre à l'étranger qui concerne la crise politique en cours au Brésil. L'ancien président de la Chambre des députés, l'un de ceux qui fut le plus virulent contre Dilma Rousseff, est à son tour pris dans la tourmente de la corruption, accusé de blanchiment d'argent. Eduardo Cunha a été destitué de ses fonctions. Il est rendu inéligible jusqu'en 2027 après un vote du Congrès national. Julien Hippolyte.
Eduardo Cunha a bien essayé d'assurer sa défense lui-même, mais rien n'y a fait. Hier encore, l'ex-président de la Chambre des députés a clamé son innocence et déclaré ne posséder aucun compte à l'étranger. Problème, la commission d'enquête parlementaire sur le scandale de corruption Petrobras a découvert qu'il était titulaire d'au moins un compte bancaire en Suisse. Selon elle, environ 5 millions de dollars d'origine suspecte auraient transité via ce compte secret. Et c'est bien ce mensonge qui aurait poussé 450 députés à voter pour la destitution de l'ex-président de la Chambre. Seuls 10 se sont prononcés contre et 9 se sont abstenus. Eduardo Cunha joue donc le rôle de l'arroseur arrosé dans cette affaire. L'an dernier, ce membre du parti du mouvement démocratique brésilien, la formation du président en poste Michel Temer, était à l'origine de la procédure de destitution de l'ancienne chef de l'État, Dilma Rousseff. Eduardo Cunha accepte donc mal cette sanction. Selon lui, sa destitution est une conséquence directe de sa lutte contre l'ancienne présidente brésilienne. Mais Eduardo Cunha pourrait ne pas en rester là. Le député ultra-conservateur peut encore se soumettre à l'exercice de la dénonciation récompensée. En collaborant avec la justice, il pourrait ainsi obtenir une réduction de peine et entraîner dans sa chute ses alliés qui l'ont abandonné. Au Brésil, 160 députés font encore face à des enquêtes judiciaires.
Julien Hippolyte. Et puis encore un tout petit mot pour vous dire qu'en Ukraine, 6 personnes sont mortes, 3 soldats ukrainiens et 3 rebelles. Demain se tient une réunion sur le cessez-le-feu à Kiev, justement au sujet de la guerre dans l'est de l'Ukraine. Le temps demain sera encore très perturbé, toujours des orages. 19 départements sont en alerte orange, nous dit Météo France. Seul le nord-est restera à l'abri du mauvais temps.